Bonjour, bien-aimés frères et sœurs en notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, j'ai salué seulement quelques-uns d'entre vous. Je vois que vous êtes beaucoup plus nombreux depuis que j'ai pris ma place et c'est une joie d'être ensemble ce matin. Donc, Émile Carpe, donc ancien pasteur à Wavre, je m'occupe aujourd'hui de l'église protestante de Nivelles qui n'a pas de pasteur et entre-temps, je voyage à gauche et à droite et c'est une joie de revenir. Un frère savait me dire que j'étais ici de passage fin février. Je l'ignorais. Voilà, donc merci frère. Voilà, il y en a qui sont bien organisés, qui prennent des notes des messages. Ils savaient dire sur quoi j'avais prêché. J'aurais dû chercher longtemps. Voilà, ils m'avaient bien donné le sujet. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la paix. Et je te remercie, André, déjà dans ta présidence, tu as mis un accent sur la paix. Et c'est ainsi, frères et sœurs, que l'apôtre nous saluait aussi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus notre Seigneur. Amen. Oui, j'ai entendu des amen. Je voudrais vous inviter d'abord de prendre dans le Nouveau Testament la première lecture, ce sont les béatitudes de Jésus, Matthieu chapitre 5. Nous lisons versets 3 à 10. Versets 3 à 10. Et ce sont des paroles que vous connaissez bien. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, ou une autre traduction dit ceux qui mènent deuil, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et puis la deuxième lecture, c'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, dont nous lisons les versets 14 et jusqu'à la fin. Romains, chapitre 12, à partir du verset 14. La traduction de la Colombe devant moi. Donc si dans vos Bibles ou à l'écran, c'est légèrement différent, il n'y a pas de souci, il y a tellement de traductions. Réjouissez-vous avec ceux qui... C'est le verset précédent, je reprends. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi, dit le Seigneur, la vengeance. C'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. Que le Seigneur nous bénisse par sa parole. Mais avant d'aborder le message, je voudrais prendre juste quelques minutes pour donner quelques informations du Mali. J'avais parlé et Jean-Marc, qui était de passage avant moi, vous a parlé de l'Association chrétienne d'aide au Sahel qui travaille particulièrement au Mali et au Burkina Faso. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation en Afrique de l'Ouest, particulièrement au Mali, situation difficile où les djihadistes imposent un blocus de carburant. Alors si ça va un peu dans la capitale maintenant, il y a certaines grandes villes, je pense à Mopti, plus de 500 000 habitants, depuis plus d'un mois sans aucun carburant. Hein. C'est dur à vivre. Et d'autres villes dans l'intérieur. Des camions, citernes ont brûlé par dizaines et dizaines. On me parle d'un total de 200. C'est difficile à vérifier. Et il y a des interdictions à l'intérieur du pays pour les femmes de voyager sans être voilées. Donc même les chrétiennes, pour ne pas mettre leur vie en danger, obligées de se voiler. Et il y a eu des enlèvements qui ont rapporté des dizaines de millions de dollars. Et on se pose même des questions s'il n'y a pas quelque chose de louche là derrière. Mais voilà, c'est une situation compliquée où nos pays appellent le ressortissant à quitter le Mali. Ça veut dire aussi que pour Jean-Marc, qui l'année prochaine avait le projet d'aller à Bamako pour un ministère dans les prisons, avec l'aumônier de la prison d'Andenne d'ici, de faire une formation pour les aumôniers, que nous sommes donc obligés à la postposer à plus tard. Et en même temps, il y a des choses glorieuses qui se passent, et je voudrais demander si nous avons quelques diapos. Donc, juste quelques infos de ce que nous avons fait récemment. Il y a des pasteurs en difficulté. Voilà, ok, c'est à l'écran. Et il s'agit de deux pasteurs. L'un a été enlevé par les djihadistes et on l'a libéré parce que de toute façon, personne n'allait payer. Et on l'a interdit d'aller dans son village, d'y retourner. Donc, il a perdu presque tous ses biens. Et un autre pasteur, il a perdu son bœuf pour labourer la terre, son âne, et puis urgence d'une appendicite d'un de ses enfants. Donc il y avait dans deux familles de pasteurs de grands besoins, et nous sommes venus à leur secours pour un montant de quelques 1300 euros pour les deux ensemble. Et cela a vraiment été un sujet de prière. Un exaucement de leurs prières et cela les a beaucoup encouragés. Et surtout quand on sait que le pasteur est celui qui est appelé à encourager nos frères et sœurs en Christ. Alors comme eux, ils ont été aidés, eh bien ils répercutent cela dans les communautés, qu'il y a des frères et sœurs en Belgique qui pensent à eux, qui agissent pour eux, qui ne sont pas seuls dans la difficulté. Et voilà, les pasteurs maintenant, ils sont vraiment gonflés en bloc et ça, c'est un grand soutien pour leur ministère. Oui, passons ici. Il y a quelquefois des églises qui sont fermées par les djihadistes et en même temps, il y a des églises qui s'ouvrent. Pays de contraste, et on ne va pas le regarder parce que le temps court vite. Voilà, donc, c'était la dédicace, c'était début septembre. Et là aussi, comme ACAS, nous sommes intervenus pour apporter un petit soutien pour mettre le toit. Et vous voyez l'intérieur de cette communauté sur la photo précédente. Alors l'intérieur, c'est encore du... les murs ne sont pas couverts, c'est encore du sable par terre. C'est le pays Dogon, région très pauvre. Mais nous avons pu apporter une contribution et les chrétiens ont un toit sur leur tête. Maintenant, nous avons des appels aussi, et vous voyez quelques photos ici. C'est une église qui se trouve dans le centre nord, région déstabilisée, où il y a beaucoup de réfugiés et où il y a une église évangélique qui rassemble plus de 200 personnes au culte. Et il y a quelques images. Là, il y a un pasteur Mohamed, originaire de Timbuktu. Donc vous comprenez qu'il a grandi dans l'islam, qu'il s'est converti à Jésus-Christ. On ne lui a pas donné un nom chrétien. Il se sert du nom Mohamed, ça facilite le contact avec les musulmans. C'est quelqu'un qui fait un travail tout à fait remarquable. Et il distribue notamment des audio-bibles. Ce sont des petits boîtiers avec la Bible dans la langue locale. Souvent, ce n'est que le Nouveau Testament, en plusieurs langues. Et certains récits de l'Ancien Testament ont été racontés. Alors, nous sommes dans une société de l'écoute. Donc, écouter, cela plaît beaucoup. Et souvent, pour des personnes non alphabétisées, et même d'autres écoutent. En début de cette année, un djihadiste a pris une telle audio-bible à un chrétien, a commencé à l'écouter et il s'est converti. Et là, nous bénissons le Seigneur. Voilà, cette église dans une zone où nous ne pouvons pas nous rendre, mais déstabilisée au nord du fleuve Niger. Et vous voyez les chrétiens là au culte. Ce pasteur aussi s'occupe maintenant de veuves. Donc il y a des veuves qui souvent ont perdu tout soutien financier. Et cette semaine, nous allons envoyer un montant pour aider des veuves. Parce que souvent, les musulmans viennent proposer, bien, tu peux te marier, je veux bien te prendre comme épouse ou co-épouse. Et tu peux garder ta foi. Oui, c'est ce qu'on dit au début. Et la tentation pour plusieurs est grande quand on n'a aucun moyen et quand monsieur est riche. Donc, nous essayons d'aider aussi des veuves pour qu'elles ne tombent pas dans ce piège. Il y a des réfugiés intérieurs du pays, il y a des enfants orphelins que nous soutenons. Donc, ce sont quelques projets que nous avons à cœur. Et la dernière image, on peut juste le montrer, c'est le pasteur qui a reçu cette aide. Et... Oui, on peut le lancer. Il dit juste merci pour ce qu'il a reçu. C'est tout simple, se filmer dans la maison, et dans des situations compliquées. Quelqu'un de proche traduit, mais c'est juste pour nous dire merci et que Dieu vous bénisse. Et on l'a reçu de telle personne qui est notre intermédiaire. Et il y a tel montant, ça permet aussi de vérifier que les choses vraiment passent et qu'il n'y a rien qui disparaît. Nous tenons à ce que l'argent des donateurs arrive sur place. Et dans ce genre de témoignages, nous avons la reconnaissance, mais aussi la vérification de ce qui est fait. Donc voilà. Priez pour les chrétiens au Mali, je termine ici. Priez pour nos frères et sœurs dans une situation difficile actuellement. Et Jean-Marc, qui vous a prêché il n'y a pas 2 mois ici, eh bien, il vous salue. Il habite en Espagne maintenant, mais revient de temps à autre en Belgique. Ok, bien-aimés, c'était les nouvelles du Mali et je vais continuer aussi dans le message où nous parlons de paix. Je suis en contact depuis longtemps avec quelqu'un qui est devenu général aujourd'hui et qui m'envoyait un message sur WhatsApp où il dit « C'est l'ensemble du corps de Christ au Mali et au-delà qui reçoit le défi, celui de ramener la paix dans notre pays. » Un général qui dit « Nous voulons la paix » et ce n'est pas la paix des armes, ça c'est pour absence de guerre. Il y a une autre paix qui est beaucoup plus fondamentale et qui est l'œuvre de l'Évangile et qui est le défi des chrétiens. Dans notre pays où il y a tant de problèmes, ceux qui construisent la paix dans le Mali, ce sont les chrétiens. Et nous demandons à nos frères et sœurs ailleurs de prier pour que nous soyons des ouvriers de paix, comme François d'Assise le dit aussi. Quand on lit les médias, les journalistes, alors ils pensent que le pays va tomber d'ici quelques semaines ou mois. Mais nous, et lui, Il pense en termes de construire la paix, c'est là son objectif. Et la paix, on aime bien en parler quand nous nous sentons bien. Ah, je me sens en paix, je suis heureux. Mais quand les choses vont mal, quand tout va contraire, sens contraire que nous voulions, c'est là qu'est le vrai défi de construire la paix, comme actuellement au pays. Alors, le vrai défi, c'est de croire que tout est possible, là où d'autres ne voient que les dangers et les impossibilités. Et quand il y a un défi, alors on se met à l'œuvre là où d'autres ne bougent pas. Et même si on ne connaît pas l'issue, voilà, nous disons, nous commençons là où nous nous trouvons. Pour construire la paix, nous ferons notre petit bout, on ne sait pas jusqu'où, mais avec l'aide de Dieu, nous verrons bien jusqu'où nous irons. Bien-aimés, le thème de notre message, c'est « Dans les moments difficiles, soyons des artisans de paix ». À notre frère dans l'armée, il y a 12 ans, quand les Français sont intervenus, l'armée malienne battait en retraite et il était là-dedans. Il y a eu une grande bataille des djihadistes et l'armée malienne a un secteur clé et les djihadistes étaient mieux armés, avaient le dessus et ils battaient en retraite. Un de ses soucis, c'était aussi d'épargner ses hommes. Et puis la France est intervenue. Leurs soldats sont arrivés, leurs légionnaires, et il a été avec ses unités ensemble, avec des unités françaises. Il les a conduits derrière les montagnes, sur la petite piste, dans le désert, pour reconquérir différentes villes. Et partout où il passait, là où il n'y avait pas de soins médicaux, ces infirmiers soignaient la population. Il m'a dit, Émile, là où nous passions, il n'y avait pas d'exaction. Dans la presse, on raconte souvent des choses. Il m'a dit, Émile, là, nous respectons. Il est un officier qui est militaire et pourtant il a un grand cœur pour tous, pour les hommes, les femmes, les petits, les grands, qui qu'on soit, musulman, animiste ou chrétien. Même le respect pour ces jeunes djihadistes, souvent engagés pour l'argent. Ils travaillent dans ces situations difficiles et pourtant, ils veulent apporter la paix du Seigneur Jésus-Christ. Souvent, nous voyons dans des pays musulmans que les autorités musulmanes font appel aux chrétiens pour intervenir dans des situations difficiles. Dans cette fameuse bataille de Kona, quand vous regardez sur Internet et vous voyez la composition des troupes de part et d'autre, on voit que le nombre de commandants maliens, il y en avait six, il y avait trois chrétiens, trois musulmans, parce qu'avec les prénoms, on voit facilement qui est qui. Il y a 90% de musulmans, mais il y avait 50% de chrétiens qui commandaient les troupes. Il a dit, ah, ça on l'a vu avant. Quand il s'agit de trouver des personnes de confiance, même les musulmans savent à qui il faut s'adresser, ce sont les chrétiens. Et lui-même est intervenu dans une situation d'un coup d'État, où un gradé s'était réfugié dans une caserne militaire. Et il a été envoyé pour arrêter celui qui faisait le coup d'État. Il s'est présenté à la porte, il a demandé à rencontrer le colonel. Et lui-même, oh, il devait être capitaine ou commandant. Et il disait, quand il a vu le colonel putschiste contre le pouvoir, et il a dit, « Mon colonel, j'ai reçu mes ordres de vous arrêter. » Et le colonel s'est rendu. Et il n'y a pas une goutte de sang qui est tombée. Là, nous voyons la grâce de Dieu. Comment, avec sa grâce, dans une situation critique où tout pourrait déraper et où pourrait y avoir un bain de sang, eh bien, ça s'est réglé paisiblement. Aujourd'hui, mon ami occupe une position élevée, mais il cherche à construire la paix. Et nous, sommes-nous aussi de ceux qui cherchent à construire la paix quand c'est difficile? Quand c'est difficile dans mon couple, est-ce que je suis un artisan de paix? Avec mes ados qui ne veulent plus venir à l'église, qui critiquent, qui ont la tension, est-ce que je suis ouvrier de paix? Avec mes voisins ou un collègue, il y a quelquefois qu'ils cherchent misère. Est-ce que je réponds au mal par le mal ou est-ce que je suis artisan de paix? Le défi est là quand la situation est compliquée. Alors comment être des ouvriers de paix? Tout d'abord, Jésus le dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et c'est bien la septième des huit béatitudes. Donc, il y a un cheminement. Il faut commencer au début. Heureux les pauvres en esprit. Oui, dans notre esprit, nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs. Et cela veut dire que nous devons connaître la paix de Dieu, la grâce de l'Évangile. Et tout commence avec la paix du Seigneur. Et puis, la paix auprès de ceux qui pleurent, la paix quand nous sommes en deuil, quand nous sommes endeuillés nous-mêmes. Et puis, la justice, la compassion, être doux. Et puis finalement, il y a cette croissance vers la paix. La bonne nouvelle, bien-aimée, ce n'est pas un cheminement de toute une vie. On pourrait dire la paix, ça vient tard, c'est seulement pour l'âge avancé. Les jeunes ici, je veux vous dire, nous pouvons progresser vite dans la vie chrétienne. Nous pouvons devenir des ouvriers de paix dans notre jeunesse. Il y a un cheminement de maturité et ça ne prend pas toujours des années. Par la grâce de Dieu, ça va vite. Et il y a des jeunes qui, à leur place, à leur école, dans leur club sportif, sont des ouvriers de paix. Voilà, c'est une parole pour nous tous. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et qui est le fils de Dieu? C'est Jésus-Christ. Donc construire la paix, c'est ressembler à Jésus. Être comme lui. Et puis, comment construire la paix? Alors, Paul donne trois pistes. La première, il dit aux Romains 12, voilà, là, il y a trois éléments que je relève. Bénissez ceux qui vous persécutent. Ah, il y a des gens qui nous critiquent, qui nous font mal, et nous aurions tendance à répondre de la même façon. Hein. Tu me donnes un coup, je te rends un coup. Tu dis quelque chose de mal, moi je réponds méchamment. Ah, ça, rendre le mal par le mal, l'apôtre dit non, ne rendez pas le mal par le mal. Car quand nous agissons ainsi, ça ne résout pas le problème, ça ne permet pas au conflit de le désamorcer. Il dit de bénir ceux qui nous de ceux qui nous persécutent. Et bénir, c'est quoi? Mais bénir, ça commence à dire du bien de la personne qui se trouve devant nous, au lieu de critiquer. Et nous avons facile à voir tous les problèmes. Il y a certaines personnes à qui je compense, à qui j'ai difficile, on voit facilement les problèmes, mais comment puis-je changer les choses si je ne vois pas d'abord une qualité ou quelques qualités en lui ou en elle? Dans nos couples aussi, qu'il est important de dire du bien de notre époux, de notre épouse. Et pourtant, dans le couple, c'est là que nous connaissons tous nos défauts. S'il y a un lieu où on connaît bien ses défauts, n'est-ce pas? C'est dans le couple. Et quand nous parlons avec nos proches, nous allons relever les défauts de notre épouse, de notre époux bien-aimé. Nous bénissons Notre conjoint, nous la bénissons, notre épouse, notre époux, et nous partageons ses qualités, et nous plaçons les points faibles sous la grâce, parce que moi j'en ai aussi. Ah, et là, mon épouse les met sous la grâce, et nous disons du bien l'un de l'autre. Et dans l'Église aussi, quand quelquefois nous devons exhorter quelqu'un, dire quelque chose qui ne va pas, que c'est important d'abord de dire sa qualité, de dire « mon frère, tu es un chrétien extraordinaire, tes prières vraiment m'ont édifié », de relever la qualité avant d'aborder un point de friction et dire du bien des autres. Il y a 3 semaines à peu près, dans la presse, vous avez sans doute entendu cette interview avec l'ancien ministre André Flao, ex-ministre socialiste. Et on parle de Bardewever, NVA. Vous voyez deux camps tout à fait différents. Et André Flao, il a loué Bardewever dans le cadre de l'Union européenne. Il s'était opposé à tous les autres chefs d'État par rapport aux avoirs russes gelés. Et ça avait remarqué... C'était... Quoi? Dit le journaliste, vous dites du bien. Mais je dis qu'il a eu une attitude très courageuse de tenir tête devant autant de chefs d'État. Il a dit du bien. Et ça, c'est un exemple pour nous. Ça me touche. De voir quelqu'un qui, bien qu'il y ait des différences, sait d'abord dire du bien. Là, nous sommes sur le chemin de construire du paix. Que le Seigneur nous donne aussi de voir toujours le côté positif d'abord et d'encourager nos frères et sœurs, surtout quand il s'agit de ceux qui nous persécutent. Deuxièmement, bénir, c'est rechercher le bien de tous les hommes. Ah, les églises au Mali, ils ne s'adressent pas seulement aux chrétiens. Quand il y a une aide, quand il y a un dispensaire, par exemple. Le dispensaire n'est pas seulement pour les chrétiens, mais c'est pour les animistes, c'est pour les musulmans, c'est pour tous les malades du village ou autre village ou même de plus loin. Tout le monde va être aidé pour le même montant, avec le même amour. Et les chrétiens sont là pour servir tout le monde, sans qu'il y ait un dû par après. Et un musulman ou un animiste sait que quand il vient, un dispensaire chrétien, il voit l'amour des chrétiens, mais il sait qu'il n'y a pas de dû après. Tu ne dois pas venir à l'église, tu ne dois pas te comporter d'une certaine façon dans le village. Tu restes entièrement libre. Ce n'est pas toujours le cas ailleurs. Donc les chrétiens cherchent à le bien de tous les hommes. Seul projet ici en Belgique soutient un de nos projets dans le pays Dogon pour l'agriculture. Amélioration des projets d'agriculture. En bénédiction aux chrétiens, mais aussi aux musulmans ou animistes qui vivent dans les villages. On cherche à faire le bien et instruit ainsi. L'Église continue à construire la paix. Et puis nous aimons qu'on bénissez, eh bien c'est dire que le Seigneur te bénisse. Invoquez la bénédiction du Seigneur. Et que c'est précieux quand nous nous attendons à Dieu, à ce qu'il intervienne pour faire du bien. Un jour, j'ai rencontré une sœur de l'église devant un magasin, devant la grande surface. Et elle avait sa sœur avec elle, que je ne connaissais pas et qui n'était pas encore à l'évangile. Et puis, on a parlé juste 2 minutes ensemble parce que chacun était pressé. Et ça s'est terminé avec « Que le Seigneur te bénisse ». Eh bien, cette parole a touché la sœur de notre sœur. Elle a demandé un rendez-vous, elle s'est convertie, elle s'est préparée au baptême. Son mari s'est converti aussi, on a eu 2 baptêmes de ce couple. Et tout a commencé avec ces simples mots, que le Seigneur te bénisse. Il n'y a pas une personne ici qui ne peut pas dire que le Seigneur te bénisse, n'est-ce pas? Oui, mais quelqu'un qui est peut-être mouette, voilà, mais il peut le dire d'autre façon. Que le Seigneur te bénisse. Tout simplement des mots, on n'y pense pas, mais tout d'abord c'est une prière où nous invoquons la bénédiction de Dieu et le Seigneur nous se sert de nos paroles. Même aux musulmans, ah oui, le texte nous le dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Ah, je ne dis pas que tous les musulmans nous persécutent, mais même si c'est un musulman qui me persécute, je vais dire, eh bien, que le Seigneur te bénisse. Pourquoi? Parce que je crois que la plus grande des bénédictions, c'est que quelqu'un découvre l'évangile de Jésus-Christ, qu'il découvre celui qui est mort pour le pardon de ses péchés à la croix. Et que dans ma bénédiction, il y a la prière aussi, que le Seigneur se révèle à cet ami pour qu'un jour il devienne disciple de Jésus. Ah, la plus grande bénédiction, n'est-ce pas la révélation de Jésus-Christ dans sa vie. Donc, première approche, bénissez ceux qui vous persécutent. Puis l'apôtre dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Nous le voyons en Jésus. Il se réjouit avec le couple aux noces de Cana qui se mariait. Il était là, il a participé à la fête. Il se réjouit. Et en même temps, lors des funérailles, après les funérailles de Lazare, quand il se joint à la famille de Marthe et de Marie, là, Jésus pleura, nous dit le texte. Ça veut dire que l'ouvrier de paix, il est proche des autres. Et il adapte sa réaction aux situations. Quelqu'un est dans la joie, eh bien nous partageons sa joie, nous nous réjouissons. Dans les fêtes d'anniversaire, eh bien nous nous réjouissons. Et que l'occasion de dire, ben, le Seigneur t'a béni. Et peut-être tu as parlé de ton anniversaire, mais est-ce que tu peux nous raconter combien d'années tu es au Seigneur, l'anniversaire de ta conversion? Il y a des chrétiens parmi nous qui aiment marquer leur anniversaire de leur conversion. Et un frère, il y a quelque temps, me disait, eh bien, ça fait à peu près 30 ans que je marche avec le Seigneur. Il disait, c'est mon anniversaire de rencontrer Jésus-Christ. Voilà, c'est avoir de l'empathie dans les joies, mais aussi dans les peines. Donc, nos émotions sont aussi engagées. Je reviens à notre commandant de l'armée au Mali, quand il était avec les troupes françaises, il a libéré une ville qui s'appelle Douenza. Et évidemment, la libération était tout d'abord une grande joie. Mais quand on a fait les présentations avec les gens, il a rencontré aussi une dame âgée à qui les musulmans, les djihadistes, avaient coupé la main droite. Et là, il s'est mis à pleurer. Lui, le général, devant d'autres gens, il s'est mis à pleurer. On m'a raconté 2 ans plus tard quand j'étais sur place. Voilà. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Et mon bien-aimé, voilà, il a perdu des hommes dans le désert. Il était là pour leur dernier souffle. Il les a enterrés, sachant que très probablement leur famille ne verrait jamais la tombe de son fils, de leur fils ou de leur père. Jamais il ne s'est réjoui de son ennemi qui tombe, comme il est écrit dans les Proverbes. Ne te réjouis pas si ton ennemi tombe. Il y a des sujets qui, vraiment, dont charnellement, on pourrait dire, ah, heureusement, il est mort, ça nous arrange, non? C'est quelqu'un qui aurait dû entendre l'évangile de Jésus. C'est quelqu'un qui a souffert. C'est une famille qui pleure. Et nous ne pouvons pas nous réjouir dans de telles circonstances quand quelqu'un perd la vie. Donc, nous 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 construisons la paix quand nous rejoignons les gens dans leur joie et dans leur peine. Et troisième élément pour construire la paix, soyez en paix avec tous les hommes. Avec tous les hommes, pas seulement avec ceux qui nous plaisent bien, avec nos amis, avec ceux qu'on apprécie, avec ceux qu'on a des atomes crochus ensemble. Ah, dans l'église, il y a des gens qui sont très différents de nous, hein. Il y a des gens qui sont un peu plus compliqués, autre arrière-plan, autre culture, autre personnalité, autre statut social. Et quelquefois, il y a des personnes où c'est difficile de bien être proche. Soyez en paix avec tous les hommes. Et l'Église est donc un lieu où nous apprenons. Où nous apprenons à vivre en paix, pas seulement avec ceux qui nous plaisent bien, mais aussi avec ceux qui sont très différents de nous. Nous sommes disciples, nous apprenons, et dans l'Église, nous apprenons. Nous apprenons à vivre en paix avec chacun. Et ce que nous apprenons, nous l'exportons dans nos familles, nous l'exportons dans la société. Ici, c'est notre école qui nous forme pour notre comportement dans le monde. Une histoire encore du Mali. Il y a 13 ans, une église de Bamako a été brûlée. Et le président national en a entendu parler. Il a dit, ça ne se fait pas dans notre pays. Vous, les policiers, vous trouvez le coupable. Je vous donne 48 heures maximum. Ils se sont arrangés et 48 heures, on a attrapé un jeune garçon qui avait mis le feu à cette église. Et on a appris qu'il avait été payé par une secte islamique. Comme il n'avait pas beaucoup de moyens, pour l'argent, il l'a fait. Et évidemment, il a été tout de suite jeté en prison. Alors le pasteur Caleb, il s'appelle, a demandé audience auprès du président. Et l'a rencontré le lendemain ou quelques jours après. Ils ont eu un entretien et il a demandé la libération du jeune homme. Parce qu'ils disent, voilà, comme chrétiens, nous pardonnons. Et nous voulons construire le bon vivre ensemble, nous voulons vivre en paix avec nos voisins. Le président a répondu, « Monsieur le pasteur, vous vous occupez de vos brebis et moi je m'occuperai des grands sujets de l'État. » Au revoir, monsieur. Et notre pasteur est rentré à la maison, ne sachant pas ce qu'il devait en penser. 2 semaines sont passées. Et le président a relâché le jeune homme. Ah, mais ça, c'est merveilleux. Il a écouté le pasteur. Mais il a eu une sagesse de dire, voilà, tu vas voir ce que c'est quand, la prison, que c'est pas bon. Voilà, tu passes 2 semaines. Et puis, il a été relâché. Et là, on voit que les chrétiens cherchent à construire la paix. Devant cette église, il y a une maison avec des douches à ciel ouvert, où l'église a construit en hauteur, et le pasteur s'est rendu compte que du toit, on pouvait regarder dans les douches, et s'est dit, oui, oui, là, il y a un problème. Il s'est adressé à la famille, il dit, famille musulmane, et on leur a dit, mais on va vous installer des douches couvertes, on va payer pour cela. Et ça s'est fait. Et cette famille musulmane a dit, mais comment c'est possible? Nous avons mis le feu, mais vous nous apportez un endroit convenable où nous pouvons prendre l'eau de notre douche. Donc cela a beaucoup touché les gens. Soyons des ouvriers de paix à construire la paix. La paix ne veut pas toujours dire que nous devons dire oui à tout. Il y a des situations où nous sommes aussi obligés à faire la part des choses, où nous cherchons la paix de Dieu, à écouter le Seigneur, à écouter sa parole, à être en paix avec lui, nous n'allons jamais sacrifier la paix avec Dieu pour construire une paix ici, si c'est pour être si nous perdions notre paix avec le Seigneur. Donc, construire la paix, c'est quelquefois aussi dire avec fermeté ses convictions. Ce n'est pas dire oui à tout. Il faut une force de caractère et une sagesse comment réagir. Bien-aimés, soyons des artisans de paix et surtout quand c'est difficile. Et je m'imagine que parmi nous, il y en a qui ont difficile dans leur famille, dans leur couple. Qu'il y en a qui ont difficile au travail. Il y a des situations qui sont compliquées. Que le Seigneur fasse de toi un ouvrier de paix là où tu te trouves, où c'est difficile. Ça nous arrive tous à nous trouver par moments dans des situations difficiles. Que là, le Seigneur fasse de toi un ouvrier de paix. Et nous connaissons ce chant qui dit « Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ». Et cette paix commence avec la paix de Dieu. Quand la paix de Dieu nous habite, il est le Dieu de paix, il nous donne sa paix. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous l'avez dit tantôt, mon frère. Quand cette paix est là dans mon cœur, alors cette paix se transmettra. Cette paix se verra. Cette paix se construit autour de nous parce que cette paix est dans notre cœur. La vraie paix, c'est le prince de la paix qui est là. Si la paix véritable n'est pas là, on a souvent une apparence de paix, une paix temporaire, une absence de conflit. Et s'il y a un fait contraire qui arrive, soudainement la personne change d'attitude pour réagir avec violence. Jésus a dit, le bon arbre, on le reconnaît à ses fruits. Quand la paix est là, nous aurons une attitude de paix aussi dans des situations difficiles. Là où ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu souvent changent d'attitude, cela ne peut pas arriver à un enfant de Dieu bien-aimé. Et quelquefois, c'est difficile. Et quelquefois, nous avons de ces défis. Quelquefois, nous voudrions réagir méchamment, durement. Ah oui, nous avons notre personnalité. Mais quand Christ règne en nous, quand sa paix est là, quand son amour est là, alors il nous donnera cette grâce de construire la paix. Il nous donnera sagesse. La paix, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Galates 5, verset 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, etc. Donc, la paix en troisième position. Et c'est un don de Dieu, c'est une grâce. Le Seigneur nous aide à devenir acteurs de paix autour de nous, comme Jésus. Qui est le prince de la paix? Soyons de ceux qui construisent la paix dans le monde. Amen. Oui, Seigneur, nous t'offrons ces quelques paroles et nous demandons que tu viennes les féconder, que tu habites notre cœur et que tu fasses, surtout dans les situations difficiles, que nous soyons de ceux qui bénissent, de ceux qui rejoignent la personne là où elle souffre ou là où elle se réjouit. Et que nous soyons toujours de ceux qui cherchent la paix avec tous les hommes, dans toutes les situations. Seigneur, merci car tu nous conduis. Et dans nos défis, viens à notre secours. Et fais que d'autres voient que tu es là, Seigneur Jésus, toi le prince de la paix, que tu utilises tes enfants pour construire la paix là où tu nous places. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus, et merci pour ce que tu feras pour chacun de nous. Alléluia. Amen.